Épisode 4. Dios vos, salve señor capitán general.
Kaya naglayag kami sa 60 araw ng ulan hanggang Ekwator. Bagay na pambihira at katakataka.
Paglisan sa Sevilla, panganib sa Ilog Betis at ang Puerto San Lucar.
Paglaot ng pangkat sa Atlantika, ang pagdating sa Grand Canary Islands, walang tubig maliban sa alamom ng...
Nagpakita si San Anselmo sa kalakasan ng bagyo, iniligtas ang mga barko, makakakaibang ibon at mga
pati. Pagdating sa Amerika, ang kalakal doon patatas at ang kaibang
patatas. Amiral, personne ne doute de votre expérience de la haute mer, moins encore de votre compétence, car nous savons tous quelle est votre valeur. Nous savons que vous avez, par le passé, souvent navigué le long des côtes de l'Afrique. Mais depuis 15 jours, les calmes plats empêchent la flotte d'avancer. Alors pourquoi allons-nous si loin au sud, alors que du Cap Saint-Vincent, nous aurions pu cingler directement vers le Brésil en direction du sud-ouest? Pourquoi perdons-nous notre temps? Pourquoi?
Je vous prie de ne pas vous occuper de la navigation et de suivre en toute tranquillité mon pavillon pendant le jour et le farol durant la nuit. La science est levée.
Que voulez-vous, lieutenant Pigafetta? Magellan est ainsi fait, c'est son tempérament. Il n'aime pas s'expliquer. Du reste, il a ses raisons. Une imposante flotte portugaise surveille la route du Brésil et ne manquerait pas de nous intercepter si nous traversions trop tôt.
Mais s'est-il trompé de route, comme le croit Cartagena?
Cartagena n'est qu'un présomptueux et piètre navigateur. Regardez cette carte, Pigafetta. Nous sommes ici. Encore très en deçà du 40 degrés parallèle. Il faut que nous attendions les vents favorables. L'amiral descend vers le sud pour chercher les alizés. Croyez-moi, tant qu'il commandera cette flotte, rien ne pourra nous arriver. Nul ne connaît la mer Océane mieux que lui.
Après que nous eûmes passé la ligne équinoxiale vers le sud, nous perdîmes l'étoile de la Tramontane. Et nous naviguâmes entre le vent du sud et le Garbin, qui est le vent collatéral entre le sud et le Ponant, et nous traversâmes l'océan. Le temps était hostile, les navires avançaient cependant à vive allure, écoutilles et sabords souqués. Nous avions mis le cap sur la terre de Verzin, que l'on appelle également Brésil. C'est en pleine mer, après que les navires eurent essuyé plusieurs et terribles tempêtes, miraculeusement apaisées par l'apparition des feux de Saint-Anselme, que le premier incident grave survint. Ce soir-là, Magellan, debout à l'avant de la Trinidad, voit le San Antonio commandé par Juan de Cartagena s'avancer vers la nef capitane. Selon l'usage et les ordres, il vient saluer avant que la nuit ne tombe. Mais l'homme qui se présente sur le pont du San Antonio n'est pas son capitaine. C'est un quartier-maître. Et lorsqu'il est à portée de voix, l'homme crie « Dios vos salve, capitán y maestro !» Tous les officiers, tous les équipages ont entendu que sur ordre de son commandant, ce quartier-maître a omis les paroles « Capitán general et buena compañía ». Tous ont compris que Cartagena ne reconnaissait plus Magellan comme chef d'escadre.
J'exige que ce soit ton capitaine qui vienne me saluer.
Capitaine Hernando de Magallanes, c'est le meilleur de mes hommes qui t'a présenté les respects. Mais si tu veux que ce soit quelqu'un d'autre, je peux le remplacer par un de mes pages.
L'amiral se renfrogna. Plutôt que répondre à la provocation de Cartagena, il préféra regagner sa cabine. Il garda secrète sa grande colère. Pendant plusieurs jours, dans un froid silence, il mijota sa vengeance derrière un front têtu et obstiné. Pendant ce temps, le San Antonio, au lieu de naviguer comme il se doit derrière le navire amiral, vagabondait tel un chien fier d'avoir mordu son maître. Pour le capitaine général, la situation était grave. Toute la flotte, commandant, officiers, pilotes, marins, avait les yeux sur lui. Mais il restait enfermé dans sa cabine, ne recevant personne. Son esclave, Enrique, veillait à ce que personne ne le dérange. Un soir, l'amiral sortit sur le pont pour donner quelques ordres indispensables à la navigation. Les autres navires s'approchent pour la cérémonie du salut à l'amiral. Une nouvelle fois, le quartier-maître du San Antonio omet les paroles rendant hommage, mais cette fois, Magellan semble n'y pas prêter attention. C'était mal le connaître. Il parut en effet secrètement satisfait de cette insubordination répétée, car elle lui donnait l'occasion de mettre enfin les choses au point avec Cartagena. Un incident mineur en fut le prétexte. Un marin, à l'exemple du capitaine Cartagena, s'était rendu coupable d'un acte contraire à la discipline. Magellan décida que ce marin serait jugé à bord de la Trinidad en présence des quatre commandants. Ils étaient persuadés à l'annonce de cette réunion que dans un but de conciliation, Magellan les consulterait. Ce marin, coupable d'une peccadille, serait pendu haut et court, tandis que Juan de Cartagena et l'amiral se réconcilieraient sur son cadavre. Mais tout se déroula bien autrement.
Messieurs les commandants, tout homme est soumis à l'autorité de Dieu. Toute insubordination se caractérise par une offense faite à Dieu. La désobéissance à bord des navires est un acte de rébellion contre notre Seigneur Jésus-Christ. Messieurs les capitaines, vous bénéficiez de la délégation de pouvoir de l'amiral, lui-même nommé par le roi, qui lui-même investit de la grâce divine. Ce marin désobéissant à son capitaine mérite-t-il une autre punition que la mort? Qu'en pensez-vous, cousin capitaine Alvaro de Mesquita?
Sa vie est entre vos mains. Amiral, vous êtes seul juge. Prononcez votre sentence, elle sera exécutée. Personne ne discute vos ordres.
Et vous, Don Juan de Cartagena, qu'en pensez-vous?
J'ai été personnellement nommé védor de cette flotte par Sa Majesté. Je dois veiller à la bonne conservation des intérêts de la couronne. Et assurément, l'obéissance est une condition nécessaire à la parfaite exécution des ordres. Il me paraît indispensable que ce marin soit jugé avec sévérité. L'exemplarité du jugement aura le meilleur effet sur les hommes qui se sentiront parfaitement encadrés si nous montrons notre unanimité.
Je crois que nous partageons tous cette opinion. Mais il subsiste une interrogation. Si ce marin s'est cru autorisé de tenir tête à son capitaine, il s'est imaginé qu'il obtiendrait gain de cause. Cela lui aurait-il été inspiré par quelque exemple?
Le cas étant réglé, je veux soulever un autre problème. Nous sommes loin de la route prévue. Pourquoi nous en sommes-nous éloignés? Pourquoi n'avons-nous pas encore atteint le Brésil? Pourquoi n'avons-nous pas fait escale à Cuba? Pourquoi?
Je doute que ce soit l'objet de notre réunion. Vous ne m'avez pas dit quelle sentence vous entendiez prononcer, Cartagena? Vous qui êtes le védor de cette flotte, vous devriez nous suggérer quelque chose?
Qu'on le pende ou qu'il aille au diable. Ce qu'il importe, c'est de savoir...
De savoir qui, payant d'exemple, a incité cet homme à désobéir, à braver le règlement, pourtant strict et connu de tous.
Nous sommes ici pour exiger des explications, Magallanes, non pour juger une peccadille.
Peccadille? Et pour une peccadille, vous suggériez de pendre un homme?
Magallanes, depuis notre départ de Séville, vous nous cachez vos intentions. Êtes-vous un espion à la solde des Portugais qui cherchait à vous débarrasser de nous pour leur livrer nos bateaux et nos équipages? Vous cherchez à nous faire capturer. C'est pour vous signaler à eux que vous vous êtes approché des îles du Cap-Vert. C'est pour nous faire tomber en leur piège que vous avez évité Cuba, qui est une possession espagnole, préférant descendre plus au sud, où vous espérez rencontrer vos compatriotes installés sur les côtes brésiliennes.
Cartagena, si pour une infime infraction au règlement vous proposez de pendre un homme, que puis-je faire de vous qui, depuis plusieurs jours, répétez les insubordinations? Depuis le début du voyage, vous ne cessez de mettre en doute ma loyauté à la couronne d'Espagne. Et aujourd'hui, devant témoins, vous insultez votre amiral. Alguazil, Alguazil, arrêtez ce traître. Mettez-le au fer.
Amiral, capitaine général, vous ne pouvez pas. Don Juan de Cartagena est un grand d'Espagne. Il a droit à des égards.
De l'impolitesse à l'injure, il n'y a qu'un pas. Messieurs, je vous prie de vous taire. Alguazil, emmenez-le.
Confiez la garde de Cartagena à l'un d'entre nous, contre sa parole d'honneur de le surveiller nuit et jour.
La parole d'honneur? De qui? La vôtre, Mendoza, qui est son ami?
Je le garderai sous bonne surveillance à bord de mon navire. Je fais le serment, devant nous tous, de le tenir en permanence à votre disposition.
Luis de Mendoza prêta serment, et le soir même, tout sembla rentrer dans l'ordre. L'amiral nomma Alvaro de Mesquita, son parent, commandant du San Antonio, qui salua comme il se doit.
Dios vos salve. Señor Capitán General, y maestro e buena compañía.
Nous traversâmes l'océan jusqu'à une terre nommée Berzin, qui est au 25e degré et demi du ciel antarctique. Cette terre est du Cap Saint-Augustin, qui est au 8e degré du ciel antarctique. Terre de Berzin, que les Portugais appellent Brésil, est plus grande que France, Espagne, Italie réunies. C'est une terre que le roi du Portugal a conquise. Les habitants d'Icel ne sont point chrétiens et n'adorent rien, mais ils vivent selon l'usage de la nature. Certaines de ces gens vivent 100 ans ou plus et vont nus, tant hommes que femmes. Leurs habitations sont de longues maisons qu'ils appellent bridge et ils dorment sur des filets de coton qu'ils appellent en leur langage amache. Dans chacune de ces grandes maisons habite une famille de 100 personnes. Ils ont des barques taillées dans le tronc d'un arbre autour d'une pièce, qu'on appelle canoë, et ceux-ci ne sont point construits avec des instruments de fer, mais ils utilisent des pierres, et avec cela, ils rabotent et creusent des barques, dans lesquelles peuvent entrer 30 ou 40 hommes. Les rameurs sont des gens noirs, tout nus et tondus. Ils ont des mines effrayantes, comme s'ils allaient affronter l'enfer.
Mangiano carne umana dei loro nemici, non perché la trovino.
Les hommes et les femmes de ce lieu mangent la chair de leurs ennemis, non point comme bonne viande, mais selon une coutume. Une vieille femme avait un seul fils qui fut tué par ses ennemis. Quelques jours plus tard, les amis de cette femme capturèrent l'un des meurtriers. La vieille, voyant le prisonnier et se rappelant la mort de son enfant, comme une chienne enragée le mordit à l'épaule. Le captif trouva moyen de s'enfuir, et montrant la morsure aux gens de sa tribu, il leur raconta comment on avait voulu le manger. Après cela, ceux qui étaient d'un côté comme de l'autre étaient mangés. Cependant, ils ne dévorent pas toute la personne de l'homme qu'ils prennent, ils le mangent morceau par morceau. Et de peur qu'il ne se gâte, ils le découpent par pièces qu'ils font sécher dans la cheminée, et tous les jours ils entaillent un petit morceau et le mangent avec la viande ordinaire pour se souvenir de leur ennemi. Cette coutume est vraie. Elle m'a été confirmée par l'un de nos pilotes, Juan Carvalho, qui avait demeuré pendant 4 ans dans ces terres du Brésil. Les gens de ce pays, aussi bien hommes que femmes, se peignent merveilleusement tout le corps et le visage avec du feu. Et ils ne portent point la barbe qu'ils se rasent. Ils se vêtent de grandes plumes de perroquet dont ils se recouvrent le postérieur. Les hommes sont marqués de 3 pertuis à la lèvre inférieure dans lesquelles sont serties de petites pierres rondes. Cette sorte de gens ne sont pas bien noirs, leur couleur est plutôt celle du tanin, et ils n'ont aucune vergogne à montrer leur partie honteuse. Leur roi se nomme Carich. Il possède un nombre infini de perroquets et de petits chats qui ressemblent à des lions. Ces gens préparent du pain de forme ronde en utilisant la moelle de certains arbres. Ils ont aussi des porcs et de grands oiseaux qui ont le bec comme une cuillère. Pour une cognée ou pour un couteau, ils nous baillaient une ou deux de leurs filles comme esclaves. Mais leurs femmes, ils ne les baillaient pour rien au monde. Et elles non plus n'auraient fait de tort à leur mari. Selon ce que j'ai entendu, les femmes de ce lieu ne font jamais leur devoir à leur mari le jour, mais la nuit seulement. Elles besognent dehors et portent tout ce qui est nécessaire à leur mari dans de petits paniers sur leur tête.
Si disse messa due volte a terra.
Cependant, je ne veux pas oublier de dire que nous avons célébré la messe par 2 fois et qu'il y avait beaucoup de gens de ce pays qui se mettaient à genoux et les mains jointes en grande révérence et c'était plaisir et émotion de les voir. Ils édifièrent à notre intention une grande maison car ils croyaient que nous allions rester parmi eux tant ils étaient heureux de notre présence. En effet, le hasard fit qu'il n'y avait point fait de pluie depuis 2 mois en ce pays, et le jour de notre arrivée, il commença de pleuvoir. De là, ils en conclurent que nous venions du ciel et que nous avions amené la pluie avec nous. Ce qui est une grande simplicité d'âme. Assurément, ce peuple se convertirait à la foi chrétienne. Nous demeurâmes 13 jours en cette terre de Verzin. Le Verzin est une couleur qui provient des arbres qui poussent en cette région, en si grande quantité que le pays en porte le nom. Mais les Portugais l'appellent Brésil, et le pilote Juan Carvalho, qui avait déjà voyagé en ce pays, nous précisa que cette baie où nous étions était dénommée Bahia del Rio Janeiro. Suivant notre chemin, nous allâmes jusqu'au 34e degré et un tiers du pôle antarctique. Là, nous trouvâmes auprès d'une rivière des hommes que l'on appelle cannibali, qui mangent de la chair humaine. L'un de ces hommes, de stature herculéenne, vint à la nef capitaine. Il avait une voix de taureau. Et pendant que celui-ci était sur le navire, les autres avaient fui loin de nous. Voyant cela, nous descendîmes la terre 100 hommes et essayâmes d'en capturer. Cependant, ils réussirent à fuir. Ces gens couvraient en un seul pas plus de distance que nous n'en faisions en un saut. En la dite rivière se trouvent 7 îles, et dans la plus grande on trouve des pierres précieuses. Ces grands hommes nommés cannibali, ce sont eux qui par le passé mangèrent le capitaine espagnol Juan de Solis et 60 de ses compagnons qui s'y étaient aventurés en 1515. Ce capitaine avait nommé cette rivière Rio de la Plata à cause de l'argent que roulaient les eaux du fleuve. Longeant toujours cette côte vers le pôle antarctique, nous trouvâmes 2 îles pleines d'oies et de loups marins. Comment estimer la grande quantité d'oiseaux ? Nous en chargeâmes les 5 navires en moins d'une heure. Ces oiseaux sont noirs et ont des plumes par tout le corps d'une même grandeur. Ils ne volent pas et se nourrissent de poissons. Ils sont si gras qu'on ne les plume pas mais on les écorche. Ils ont le bec comme un corbeau. On les appelle otaries. En ce lieu dit, le 27 février 1520, nous essuyâmes une grande tempête qui dura 3 jours. Nous cherchions à nous réfugier dans une baie, mais la tempête y était aussi forte qu'en pleine mer. Nous étions entrés dans le golfe de Los Trabajos, et nous crûmes que la flotte allait y périr. Mais les 3 corsins, à savoir Saint-Anselme, Saint-Nicolas et Sainte-Claire, nous apparurent, et aussitôt la tempête cessa.
Arrivamo a 49 gradi 30 di latitudine sud ed essendo ormai già in inverno entrammo in un buon porto naturale per svernarvi.
Les équipages étaient exténués. Le froid augmentait de jour en jour à mesure que l'on descendait vers l'Antarctique. Chaque fois que nous passions devant une ouverture, nous pensions que c'était le passage vers la mer du Sud. Chaque fois, le capitaine envoyait une reconnaissance, mais toujours elle revenait sans avoir rien découvert. C'est ainsi que nous sommes arrivés à 49 degrés 30 de latitude sud. Et parce que nous étions en hiver, nous entrâmes dans un port naturel. C'était la baie de San Julián. À peine eûmes-nous mouillé dans ce port que les capitaines des autres vaisseaux firent un complot pour tuer le capitaine général. Ces traîtres étaient Juan de Cartagena, veedor de l'escadre, Luis de Mendoza, le trésorier, Antonio de Coca et Gaspar de Quesada. Le complot fut découvert, Gaspar de Quesada fut décapité puis écartelé, Luis de Mendoza poignardé. Mais revenons plus en détail sur l'histoire de ce complot, car il faut se souvenir que depuis notre départ de Séville, Juan de Cartagena préparait son plan. Il avait estimé que la baie de San Julián pouvait être le second lieu propice à l'exécution de son noir dessein. Tout a commencé le 31 mars 1520.
Restammo in quel porto che chiamammo di San Giuliano circa 5 mesi e lì accaddero molti avvenimenti dei quali voglio raccontare qualcuno a vostra signoria illustrissima. Subito dopo entrati nel porto, i capitani delle altre navi ordirono un complotto per ammazzare il capitano generale.
C'était Magellan, le premier tour du monde, avec Di Meo Giovanni, Antonio Pigafetta, Frédéric Thomas, Antonio Pigafetta, voix française, Nicolas Degremont, Magellan, José Abeto Z, Enrique, Éric Montplet, Don Juan de Cartagena, Johan Bonvoisin, Juan Serrao, Carlo Tessado, voix du garçon, Kimberly Estayo, voix de la fille, Denis Leblon, Louise de Mendoza, Christophe Barandon, Alvaro de Mesquita,